Alors maintenant, je vais vous présenter, alors ça c'est un travail que j'ai pu faire grâce à la confiance de l'association qui m'avait confié ces données à travailler sous l'angle de la qualité de vie et surtout grâce à l'aide de l'équipe du professeur Pascal Auquier, qui est une équipe de recherche en épidémiologie, santé publique, qualité de vie perçue et maladie chronique à la faculté de médecine de la Timone à Marseille. Et nous avons donc travaillé ces éléments de qualité de vie, des questionnaires que l'association ALIS propose aux personnes LIS, afin d'évaluer la qualité de vie, l'évolution de la qualité de vie des personnes LIS sur une période de 6 années. Voilà, donc nous avons, ce travail a fait l'objet d'une publication dans la revue des maladies rares. Et donc ce travail a été fait en collaboration avec Karine Baumstark et Marine Alessandrini de l'équipe du professeur Auquier. Alors, l'état de la question assez rapidement. Bon, je vous passerai sur les 3 catégories de Loctin syndrome. Le Loctin syndrome total qui est souvent malheureusement sous-diagnostiqué et pris pour un état végétatif. Le LIS classique et on le voit beaucoup dans les étiologies vasculaires, le LIS partiel, c'est-à-dire la récupération d'une possibilité motrice ou de la parole. Donc, la problématique du Loctin syndrome, c'est la dépendance complète pour les actes de la vie quotidienne à l'entourage, qui parfois, en fonction des possibilités de l'entourage, eh bien, impose une vie en institution. Et on l'a vu que 35% des personnes LIS, du moins des personnes suivies par l'association ALIS, vivent en institution. Et si on rajoute à cela les 18% qui vivent à l'hôpital, eh bien, ça fait quand même une grande partie de ces personnes qui ne vivent pas au domicile. On a vu aussi dans les données épidémiologiques que la mortalité est très élevée la première année, notamment dans les 4 premiers mois avec 80% de décès. Ça rejoint les données épidémiologiques disponibles dans la littérature mondiale. Mais ce qui est intéressant de constater, et les données présentées tout à l'heure issues de la base ALIS rejoignent les données de la littérature mondiale, c'est que la survie en LIS est prolongée beaucoup plus qu'avant et elle est très prolongée. Avec 83% des personnes LIS qui ont une survie à 10 ans et 40% des personnes LIS qui ont une survie à 20 ans. Et ces données issues de la littérature et publiées par Dobel et collaborateurs sont déjà anciennes. Hein. Elles datent de 2003, donc on sait que cette survie, elle a tendance à s'allonger. Et donc se pose avec de plus en plus d'acuité la question de la qualité de vie de ces personnes LIS et de l'évolution de cette qualité de vie. D'où l'importance de mener des études dans ce domaine. Donc, je ne reviens pas sur les étiologies, j'insiste quand même sur toute la frange de la population LIS, dont l'étiologie est la phase terminale et maladie du motoneurone. Je pense aux scléroses latérales amyotrophiques, par exemple, et syndrome apparenté, ou dès lors que la personne accepte la ventilation mécanique invasive sur trachéotomie, eh bien, la survie peut être très prolongée. Nous en avons quelques-unes qui survivent comme ça des années et qui sont donc en Loctin syndrome et qui ont la même prise en charge que le Loctin vasculaire. Donc l'objectif de l'étude que nous avons menée a été donc d'évaluer cette qualité de vie sur une période de 6 ans. L'association Loctin, quand elle m'a proposé de travailler sur cette thématique, avait des questionnaires de qualité de vie qui avaient été renseignés par les personnes LIS en 2007, et nous avons donc reproposé ces mêmes questionnaires avec la même échelle de qualité de vie en 2013 aux personnes LIS qui avaient répondu déjà en 2007 à ce questionnaire d'évaluation. Et ces questionnaires d'évaluation, on va le voir de façon plus précise, mais ça renfermait un certain nombre de données qui nous permettent d'évaluer la part potentielle des facteurs sociodémographiques, des facteurs cliniques et des facteurs d'autonomie sur la qualité de vie des personnes LIS. Donc, l'association ALIS avait adressé à 197 personnes LIS en 2007 des questionnaires. Pour bien comprendre cette étude, 67 personnes LIS ont retourné ces questionnaires en 2007. en 2013, nous avons renvoyé ces mêmes questionnaires, mais en mettant un petit peu la pression sur le remplissage, la qualité de vie, en donnant vraiment d'emblée l'objectif du renvoi de ces questionnaires, qui était un objectif d'obtenir des éléments sur leur qualité de vie, donc en 2013. Alors, les éléments de ces questionnaires, il y avait des données sociodémographiques classiques, âge, genre, lieu de vie, situation familiale, étiologie et ancienneté dans le Locked-in syndrome, autonomie pour les déplacements, mode de communication, dispositifs médicaux dont était équipée la personne, la notion de douleur chronique, des notions psychologiques comme les sentiments d'angoisse, de dépression, les idées suicidaires, et aussi des directives anticipées comme le souhait d'être réanimé en cas de nécessité ou le désir éventuel d'euthanasie. Donc, il y avait donc aussi, bien sûr, une échelle d'évaluation de la qualité de vie des personnes LIS qui avait été choisie par l'association. Donc, nous avons utilisé la même. Elle a l'avantage d'être facile à utiliser pour les personnes LIS. C'est l'échelle ACSA pour Anamnestic Comparative Assessment, Self-Assessment. Et donc, cette échelle de qualité de vie est une auto-évaluation. C'est une échelle analogique graduée de moins 5 à plus 5. On va voir comment on procède. Donc, la personne se situe le point bas, le plus bas de sa qualité de vie dans sa vie passée avant ou après sa période LIS. Elle le chiffre. Et ensuite, elle situe le point le plus haut de sa qualité de vie avant sa période LIS. Et mentalement, elle le chiffre. Et ensuite, elle se pose la question, et maintenant, et aujourd'hui, dans ces dernières semaines, où est-ce que je me situe sur cette échelle? Donc, par exemple, si je me l'appliquais à moi-même, on pourrait faire un moins 5 à plus 5, et je me situerais aujourd'hui, je pourrais dire, je suis éventuellement à l'âge que j'ai, mettons, à plus 3. Voilà. Donc, c'est comme ça que cette réglette ACSA doit être utilisée, et le mode d'emploi figurait bien sûr dans les questionnaires. Donc, cette échelle, appliquée en 2007, réappliquée, repassée par les personnes LIS en 2013, ce sont ces deux points dont je vais vous présenter les résultats. Donc là, bon, j'ai issu ce tableau pour qu'on comprenne bien la population, combien de personnes cela a concerné. 197 personnes interrogées en 2007, 67 répondent. Parmi ces 67, on les ressollicite en 2013, et 39 nous retournent les questionnaires. Et heureusement, on avait les qualités de vie pour tous ces questionnaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pu sortir de ces questionnaires? Ils sont donc en trois... je vous présente les résultats en trois volets. Deux volets 2007 avec les 67 participants de 2007. Et le volet du milieu, c'est les 46. C'est en 2007, les 46 personnes qui ont répondu pour leur qualité de vie. Et à droite, on a le volet 2013. Alors, en 2013, ils nous ont tous renseigné l'échelle de qualité de vie. Et donc, les 39 personnes qui ont retourné le questionnaire ont renseigné l'échelle de qualité de vie. Donc, on s'aperçoit qu'on reste quand même dans une forte proportion de Locked-in syndrome classique. Donc, ils sont restés quand même assez complets. Ce n'est pas le Locked-in complet sans aucune possibilité motrice, mais on reste chez des personnes quand même assez enfermées, à 60%, hein, que ce soit pour les trois colonnes, donc que ce soit en 2007 et en 2013. On a une durée médiane de vie dans le Locked-in syndrome qui est de 7 ans en 2013 et en 2007, pardon, et de 14 ans en 2013, avec des écarts assez importants. Et on a les mêmes panels d'étiologie, c'est-à-dire toujours, bien sûr, ça, l'étiologie ne change pas en fonction des années, plus de 80% d'étiologie de cause vasculaire. Alors, on a bien sûr vérifié que parmi les 39 personnes LIS qui nous ont retourné le questionnaire en 2013, que ces personnes ne différaient pas au niveau des grands paramètres, hein, de sociodémographiques, de ceux qui n'ont pas retourné le questionnaire de façon à s'assurer qu'on n'avait pas sélectionné une population particulière parmi les personnes lisses. On a observé aussi dans nos résultats, et c'est un fait d'importance, que deux personnes avaient un souhait d'euthanasie en 2007 et que ces deux personnes, toujours vivantes en 2013, ne maintenaient pas ce souhait. Parmi les demandes de transfert en réanimation, eh bien, on avait une nette diminution des demandes de transfert en réanimation de demandes de transfert en réanimation entre 2007 et 2013. Beaucoup, on a été aussi frappé dans nos résultats par la stabilité de l'équipement en dispositifs médicaux, notamment trachéotomie et sondes urinaires à demeure. Les gastrostomies, on va le voir, diminuent un petit peu. Alors, si on regarde ces données, pas une par une, mais je vous ai sorti celles que j'imaginais les plus significatives. Donc, toujours à gauche, la population totale qui a répondu aux 67 questionnaires. Au milieu, en 2007, ceux qui ont répondu à l'échelle de qualité de vie. Et en 2013, l'ensemble des personnes qui ont répondu au questionnaire et qui avaient toutes renseigné l'échelle de qualité de vie. Donc, on garde la même prédominance masculine. Ce qu'on a à droite, les chiffres entre parenthèses sont les pourcentages qui sont les plus intéressants à regarder. On a une nette prépondérance masculine. On a un âge médian qui reste le même, qui est à 51 ans. On a toujours une majorité de personnes qui vivent au domicile. Donc on a en haut ceux qui sont en institution et ensuite la ligne en dessous, ceux qui vivent au domicile. On est quand même frappé du très fort pourcentage, 82% des personnes lisses en 2013 qui vivent au domicile. En tout cas, ce sont celles qui nous ont retourné le questionnaire. On a pour la vie en couple une répartition un peu moitié-moitié qui évolue dans le temps. Ça se croise un peu, mais ça reste stable. Pour le nombre d'enfants aussi, bien sûr, ça reste stable. On a au niveau du niveau d'études, on a deux tiers de personnes qui ont un niveau en dessous du bac, un tiers post-bac. Au niveau du revenu mensuel, alors là, on a fait un cut-off à 1 000 euros. 1 000 euros, c'est par mois, c'est très faible. Et bien, on s'aperçoit quand même que plus d'un tiers des personnes lisses ne disposent que d'un revenu inférieur à 1 000 euros. Les deux tiers ont plus. 1 000 euros avec ce niveau de handicap, c'est extrêmement faible, ça interpelle beaucoup. Le sentiment religieux est très important puisqu'on a les trois quarts des personnes lisses qui attestent d'une croyance religieuse. Alors, en foncé, les données 2007, en clair, les données 2013, donc plus de souhaits d'euthanasie. Le souhait d'être réanimé diminue aussi. Les personnes sont plus au clair avec leurs directives anticipées. Les idées suicidaires restent stables, avec quoique une petite augmentation pas significative. Le sentiment de dépression reste stable. La douleur chronique est plus importante avec le temps, ce qui médicalement s'explique. Les dispositifs sont stables, sauf pour la gastrostomie qui diminue. L'autonomie au fauteuil roulant électrique reste stable et l'assistance, la communication assistée par informatique diminue un petit peu, ce qui interpelle aussi. Alors, le dernier item, c'est la communication exclusive par code oui-non, donc à l'exclusion de la parole et de toute autre modalité. Là aussi, elle diminue en 2013. On a donc des modes de communication qui s'ouvrent. Alors, sur la durée des 6 ans, 2 personnes lisses sont décédées. Donc, 39 nous ont renseigné le questionnaire en 2013. Et dans ces 39, 30 personnes lisses sont les mêmes, c'est-à-dire avaient renseigné l'échelle de qualité de vie à la fois en 2007 et en 2013. Et c'est sur ces 30 personnes que je vais vous présenter ces résultats. Alors là, je n'ai extrait que ce qui était proche de la significativité, en jargon donc statistique, tout ce qui avait un P inférieur à 0,2. Et je vous ai surligné ce qui pouvait être considéré comme significatif en couleur. Donc, tout ce qui s'approche de la significativité est dans ce tableau. On a une partie 2007 en haut. Donc, par exemple, le fait d'avoir une sonde urinaire à demeure apparemment a un impact négatif sur la qualité de vie, même si ce n'est pas significatif. L'autonomie au fauteuil roulant électrique a un impact positif sur la qualité de vie, et ça sort très significatif. Les modalités de communication uniquement par code oui-non sont délétères pour la qualité de vie. Les idées suicidaires en 2007, on s'aperçoit que ceux qui ont présenté ces idées suicidaires ont une qualité de vie plus détériorée, ça se conçoit. Et ces mêmes personnes, en 2013, eux ont encore plus d'impact négatif sur leur qualité de vie, hein, puisque là, ça devient significatif. Alors, en 2013, le fait d'être cantonné à un mode de communication par oui-non reste encore un déterminant très négatif de la qualité de vie. J'ai presque fini. Les interfaces de communication assistées par informatique, on est assez surpris de ce résultat. Et j'espère qu'on va pouvoir mieux l'interpréter. Mais ceux qui sont interfacés ont une qualité de vie plus basse que ceux qui n'ont pas ces interfaces. Mais justement, et je rejoins un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, on peut supposer que ceux qui n'ont pas, enfin nous on l'interprète comme ça, et on l'a discuté comme ça dans notre publication, c'est que ceux qui n'ont pas ces interfaces n'en ont pas besoin parce qu'ils ont récupéré la parole. Alors je finis très vite. Le message fort de cette étude, c'est que la qualité de vie des personnes lisses, déjà à baseline, elle n'est pas si détériorée que ça, et que le message très fort, c'est qu'elle se maintient dans le temps, dans un temps qui est très long, de 6 années, et qu'en plus, elle s'améliore légèrement. Donc ça, c'est un message très très fort à délivrer aux personnes lisses, c'est que cette qualité de vie, eh bien, elle se maintient, voire elle s'améliore. Elle n'est pas corrélée au fait de présenter des dispositifs médicaux, que ce soit la gastrostomie, la trachéotomie. Il y a un petit impact de la sonde urinaire à demeure, mais qui n'est pas significatif. Alors, je passe assez vite. Les principaux déterminants de cette qualité de vie, ce sont les vecteurs d'autonomie, bien sûr. Un des déterminants très forts, c'est la communication. C'est que plus la communication est fluide, plus on arrive à sortir du code oui-non, plus la qualité de vie s'améliore. L'autonomie aussi pour les déplacements. L'autonomie au fauteuil roulant électrique est bien... même si ce n'est pas tout à fait significatif, on voit bien que les personnes lisses qui sont autonomes au fauteuil roulant électrique ont une qualité de vie plus élevée. Les idées suicidaires sont associées à une qualité de vie plus basse chez ces personnes qui présentent cette sorte d'idée. On observe aussi que les demandes de transfert en réanimation diminuent avec le temps et que les personnes lisses sont plus au clair dans leur directive anticipée. Et que les personnes lisses aussi, qui vivent dans des institutions, ont une qualité de vie, même si ce n'est pas significatif, qui est plus élevée. Et on discute cela peut-être sur un sentiment de sécurité perçu plus grand dans une institution qu'au domicile. C'est une hypothèse. Par ailleurs, le statut, la vie en couple, le statut marital... n'influe pas. Et ce qui est très frappant, et contrairement à toutes les autres études qu'on peut voir sur la qualité de vie, c'est que le niveau de revenu, et on voit quand même que beaucoup de personnes lisses ont des niveaux de revenus très bas, le niveau de revenu n'influe pas sur la qualité de vie des personnes lisses. Alors ça, j'en avais discuté avec Véronique Blandin un peu comment expliquer ça. Et on a l'impression qu'en France, la bonne prise en charge par le système français peut-être expliquer ça. Ce n'est qu'une hypothèse. Les troubles de l'humeur n'influent pas non plus sur la qualité de vie. Ça a été déjà décrit, par exemple, pour les personnes atteintes de SLA. Alors, c'est quasiment la dernière diapositive, mais je voudrais vraiment en parler. On observe ce qui a déjà été décrit par l'équipe d'Albrecht et Dave Lager, qui est le paradoxe, le disability paradoxe, qui est le paradoxe du handicap. Cette équipe avait décrit que chez les personnes tétraplégiques et atteintes de sclérose latérale amyotrophique, par exemple, la qualité de vie n'était pas corrélée au niveau du handicap moteur. Et pour aller plus loin, comment expliquer que cette qualité de vie se maintienne et s'améliore ? eh bien, on peut se rapprocher des effets du response shift phénomène qui a été décrit par Spranger et collaborateurs. Alors, pour faire simple, ce response shift, c'est une reconceptualisation de la qualité de vie avec repriorisation des domaines de cette qualité de vie et recalibration, c'est-à-dire changement des standards internes de cette qualité de vie. Pour faire plus simple, en fait, c'est une espèce de c'est un phénomène adaptatif qui est dans la nature humaine et qui permet de revoir les domaines et les éléments d'importance de sa qualité de vie, de les réadapter au champ des possibles. Et ça, c'est très important, c'est très fort. Et l'existence de ce phénomène permet à l'être humain de surmonter des situations extrêmement difficiles et de revoir un peu ses points majeurs et ses domaines de qualité de vie en fonction aussi des possibilités qui lui sont offertes. Et c'est probablement cela qui est sous-jacent au maintien de cette qualité de vie. Voilà, donc je conclue. C'est la première étude qui évalue la qualité de vie des personnes lisses, à la fois sur une population aussi importante et sur une telle durée, puisqu'il s'agit d'un intervalle de 6 ans. Et le message fort, c'est que cette qualité de vie, eh bien, elle n'est pas si détériorée que ça, elle s'améliore avec le temps, et ça, c'est très important pour des personnes qui vont vivre en très grande majorité plus de 10 ans, et pour bon nombre d'entre elles, plus de 20 ans, et avec les progrès de la science, de plus en plus longtemps. Donc, que nous apprend cette étude aussi, c'est que cette qualité de vie, elle est sous-tendue par l'autonomie dans la communication, l'autonomie dans les déplacements, et c'est ça qu'il faut absolument accompagner chez les personnes lisses. Voilà, je vous remercie.
Bravo pour cette très intéressante présentation. Y a-t-il des questions dans la salle ?
Alors non, il y a des études de nombreuses équipes dans le monde. Le Locked-in syndrome est quelque chose de rare. Donc il est rare, effectivement, je pense que Alice dispose d'une base de données avec énormément de patients. Il y a plus de 700 personnes lises dans cette base de données, et ça, c'est énorme. Je ne peux pas répondre, est-ce qu'il y a des bases de données équivalentes dans le monde, mais toutes les études que l'on peut voir dans la littérature internationale portent sur des populations qui sont souvent de beaucoup moins de patients, qui sont souvent d'une vingtaine de personnes, quelquefois c'est à propos de quelques cas. Non, on n'a pas d'énormes, on n'a pas d'études plus conséquentes que celle-là. On en a d'aussi conséquentes sur des thématiques particulières, mais on n'a pas plus important. Ça tient à la rareté du syndrome et au fait aussi qu'il faut savoir constituer une base, et ça a été la force de l'association que de constituer cette base de données pour faire progresser les choses.
Madame Ugeron.
Merci pour cette communication très, très claire et qui nous rappelle encore une fois depuis 2007 que il ne faut pas projeter finalement la qualité de vie qu'on pourrait supposer, mais vraiment écouter les personnes lisses. Moi, je suis quand même surprise du faible taux de réponse à la fois en 2007 et en 2013. Et est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à un biais, notamment, est-ce que les personnes lisses qui n'ont pas répondu sont celles qui peut-être ont un moins bon entourage ou qui sont à l'hôpital avec des équipes soignantes qui ne vont pas prendre le temps de répondre au questionnaire. Enfin, je ne sais pas.
C'est fort possible. C'est pour ça qu'on avait commencé l'étude en vérifiant que les non-répondeurs, c'est-à-dire parmi les 67 patients qui avaient renvoyé le questionnaire en 2007, que les 39 qui répondaient à nouveau en 2013, ne différait pas sur les grands segments sociaux des mots. Mais effectivement, il peut y avoir des gens très déprimés qui n'ont pas répondu. Il peut y avoir des gens qui n'ont pas eu l'assistance pour le faire. Tout à fait. C'est le risque de telles études. Mais bon, c'est quand même important de questionner les choses dans ce domaine. Mais c'est vrai qu'on induit un biais de sélection. Et il est difficile, comme ce sont des questionnaires auto-administrés, de, vous voyez, d'aller plus loin. C'est pas comme si on était sur une population captive à l'hôpital. Il est difficile donc de revenir sur les non-répondeurs.
Il n'empêche que même si le taux de réponse est faible, c'est quand même une grosse série par rapport effectivement à ce qu'on voit dans la littérature.
C'est chapeau aux personnes lises d'avoir eu le courage de répondre, de renseigner ces questionnaires. On sait le travail que c'est. On sait aussi que ça remue des choses. Et c'est par leur participation qu'on arrive à présenter ce genre de données.
Est-ce que vous avez aussi trouvé une différence entre les personnes lisses stables, notamment après un accident vasculaire, et les lisses en rapport avec une maladie évolutive ?
Alors, on n'a pas, on avait que des données auto-rapportées. On avait, dans mon souvenir, dans cette population, quasiment pas, voire peut-être pas, je me souviens plus si c'est 0 ou 1, de personnes atteintes de maladies évolutives. On pense aux maladies du motoneurone. Moi, j'aimerais effectivement, travaillant sur l'essentiel des personnes lisses auxquelles je suis confrontée, mais il y a un gros biais de recrutement, mais à l'hôpital, sont atteintes de ces maladies du motoneurone. Donc, c'est certain que ça doit être différent. Cela dit, j'avais fait sur ces personnes-là, mais pas que des personnes lisses, des personnes aussi en situation de tétraplégie, une étude de qualité de vie portant sur le fait d'être tributaire de la ventilation mécanique ou pas. Et on avait quand même, et on était très surpris, d'une qualité de vie qui n'était pas si détériorée. Alors, on n'était pas dans longitudinal dans le temps, mais on était très surpris des niveaux de qualité de vie. Et donc, de la capacité de ces personnes à surmonter l'épreuve et à recadrer leurs attentes vis-à-vis de la vie et du champ des possibles, ce fameux response shift qui se met en place et que les gens ont la force de mettre en place.